Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec l'écrivain Philippe Randa. Vous êtes éditeur, vous êtes écrivain, Philippe Randa, et vous avez publié, alors que maintenant on croit que l'affaire est oubliée, et pourtant il ne faut pas oublier les 2 ans de souffrance que l'on a tous vécu, à être enfermé chez soi, se remplir l'attestation pour avoir le droit de sortir le soir, etc. Le verbatim d'un délire sanitaire avec le docteur Bernard Plouvier. Alors, Philippe Randa, vous revenez sur 2 années d'incompétence, de panique, de grands mensonges. Le livre est publié aux éditions du Alpha. J'allais être tenté de dire maintenant que c'est terminé. Pourquoi dresser ce bilan alors que c'est terminé? Alors peut-être que vous allez certainement me répondre que l'affaire est loin d'être terminée.
Bonjour et merci de me donner la parole. Et effectivement, je serais même tenté de dire, mais ce serait peut-être exagéré parce que malheureusement ça a commencé il y a 2 ans, que tout commence maintenant. Tout commence, oui, mais autre chose maintenant, il faudrait pas que l'oubli s'installe. Et l'oubli, beaucoup de nos compatriotes et même des gens du monde entier aimeraient bien oublier cette période du Covid. Pourquoi pas? Bien sûr, il faut passer à autre chose, si tant est qu'on nous laisse passer à autre chose. Là, effectivement, en France, toutes les mesures viennent d'être plus ou moins suspendues, non pas abrogées, mais suspendues. C'est très important, je pense.
En langue française, oui, on va donner des cours de français pour ceux qui l'oublient. Suspendu, ce n'avait pas dire abrogé.
Tout à fait. Et des mauvais esprits pourraient dire que c'est à cause de la campagne présidentielle qu'il fallait absolument que le gouvernement actuel montre que grâce à lui, tout le monde avait été sauvé. Mais que se passera-t-il après les élections? Personne ne peut le savoir, même le gouvernement ne le dit pas. Par exemple, est-ce qu'il y aura de nouvelles mesures coercitives? Mais ce sera tout à fait possible, puisqu'on sait très bien que le Covid est une maladie qui va avoir des variants, de nouveaux variants, exactement comme la grippe. Alors, contrairement à ce qu'on a voulu dire pour discréditer ceux qui mettaient en doute cette folie du Covid, ce n'est pas une grippette, mais c'est comparable effectivement à ce qu'est la grippe. La grippe, tout le monde en est plus ou moins victime chaque année. Il y a des morts de la grippe, il y aura exactement du mort du Covid. Et là, j'en reviens à le pourquoi de la publication de ce verbatim. Ce verbatim, c'est tout ce que nous avons publié, le docteur Plouvier et moi, pendant 2 années, c'est-à-dire du début de l'année 2020 jusqu'à la fin 2021. Ces 2 ans, il fallait les mettre, il fallait que ça reste. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai entendu pendant ces 2 ans les gouvernements, les médecins de plateau, pas les médecins qui soignaient, mais les médecins de plateau, dire « Ah, attention, c'est une maladie terrible, nouvelle, on ne la connaît pas, on ne sait pas, on s'adapte en fonction de ce qui nous tombe sur la tête au jour le jour de l'évolution de cette terrible maladie. » Eh bien là, c'est faux. C'est faux et c'est écrit et daté bien évidemment, depuis les premiers jours du Covid, on savait à peu près tout sur cette maladie. Donc, quand les gens disent et répètent qu'ils ne savaient pas, qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, on pouvait toujours craindre certaines choses. Mais depuis le début, on sait très bien que cette maladie, et je le répète maintenant, on répète beaucoup ce que certains disent, c'est-à-dire que le Covid est mortel, très dangereux pour les personnes âgées ou pour les personnes à grande comorbidité.
Oui, okay. Personne ne remet en cause ça. Personne ne l'a remis en cause.
Alors maintenant, on entend aussi que les gens qui veulent calmer le jeu disent « Ah, mais vous niez cette maladie, alors cette maladie n'existait pas ». Bien sûr, personne n'a jamais nié que c'était une maladie, une pandémie, mais que toutes les mesures qui ont été prises, et on peut les reprendre par le détail, toutes les mesures étaient, comme dirait un ancien président, abracadabrantesques.
En l'occurrence,
je vais citer une première chose. Tout le monde se rappelle du ministre Olivier Véran, des gens qui avaient expliqué à l'époque que le masque était inutile quand il n'y en avait pas. Alors, il n'y avait pas de masque, effectivement. Après, quand on a eu des masques, il est devenu obligatoire, rappelez-vous. Mais quand il n'y avait pas de masque, c'était tout simple. Le Bernard Pouvier, médecin, ancien directeur des services hospitaliers, a dit ben, il suffisait, quand on sortait, de mettre une écharpe, deux tours d'écharpe, du coton autour du nez. Ça protégeait beaucoup, énormément, et il n'y avait pas besoin de créer une paranoïa sur le manque de masques. Et ensuite, le masque avait une utilité, c'est celui d'empêcher le virus de se répandre. Mais une fois qu'il est répandu, le masque ne servait plus, strictement plus, à rien. On ne se protégeait plus. D'une part, il faut changer de masque toutes les 3 heures, parce que on humidifie avec la laine, la salive, la buée, on humidifie le masque, ça ne sert à rien. Quels sont nos compatriotes, à part les médecins peut-être, qui eux le savent, qui changeaient toutes les 3 heures de masque? Est-ce que vous changiez, quand il était obligatoire, toutes les 3 heures de masque? Et ceux qui nous écoutent, qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils changeaient toutes les 3 heures de masque? Si ce n'était pas le cas, ça ne servait strictement à rien.
Bien sûr, oui.
Et je fais partie des gens, j'en connais d'autres, je ne vous poserai pas la question, mais que tout le monde s'interroge, je faisais partie des gens qui ont eu un masque distribué d'ailleurs par le conseil général de mon département dès les premiers jours, que j'ai gardé au fond de la poche et que je ne changeais uniquement à l'odeur, parce qu'à bout d'un moment, effectivement...
Philippe Randa, allez. On avoue, beaucoup de gens ont fait pareil. Le nombre de gens que j'ai croisés avec les masques au fond de la poche, ah, c'est obligatoire, allez, on met le masque, et c'était le même masque depuis 3 mois, quoi.
Attendez, mais c'est pire, je me rappelle, moi, avec des amis, aller au restaurant, quand on pouvait encore aller au restaurant avant cet ignoble passe sanitaire et tout, au tout début, ils n'avaient pas de masque, et comme j'en avais 2 ou 3 au fond de la poche, leur donner les 2 ou 3 qui traînaient au fond de ma poche. Le temps de rentrer, voilà. Bon, enfin, tout ça, voilà, ce sont des... Alors, évidemment, les gens qui sont terrorisés vont dire « Ah, ben, ce sont des fous, des inconscients, et c'est des gens comme vous et moi qui ont quasiment répandu la maladie. » Ça aussi, c'est terrible, et ça, c'est une des raisons de notre livre, pourquoi on a voulu tout acter, tout mettre, tout publier pour les gens, évidemment, qui voudront se poser la question, parce que malheureusement, tout le monde ne va pas vouloir se poser la question. Mais il faut bien voir que pendant 2 ans, le gouvernement et les médecins de plateau, je fais une différence toujours entre les médecins de plateau et ceux qui soignaient sur le terrain, les médecins de plateau et le gouvernement ont terrorisé la population. Alors, pas qu'en France, dans le monde entier, bien sûr, en prenant des mesures coercitives partout, quasiment. Certains pays ne l'ont pas fait, pour le même résultat d'ailleurs. Qu'on est confiné, qu'on n'est pas confiné.
Le résultat n'est pas le même, Philippe Randa. Il n'est pas le même parce que là, on est endetté sur des générations de milliards et de milliards d'aides publiques.
Je parlais bien évidemment au niveau de l'épidémie pour le contrôle de cette épidémie. Maintenant, évidemment, les pays qui ont continué à avoir une économie normale et ne se sont pas endettés, ils n'ont pas fait ce « quoi qu'il en coûte » si cher à M. Macron, qui fait que la France aujourd'hui est un des pays ruinés. Effectivement, on ne le lit pas, mais c'est le cas. Mais au niveau des cas de contamination, qu'on est confiné, pas confiné, c'est exactement la même chose. Et la grosse différence en dehors de l'endettement, c'est quand même les traumatismes chez les gens. Yannick Hurien, vous savez que depuis le 15 mars, nous pouvons circuler sans masque à l'extérieur et à l'intérieur, dans les restaurants, il n'y a plus que dans les transports en commun ou dans les hôpitaux, on nous oblige encore à mettre le masque. Et vous avez sans doute été frappé comme moi de voir entre une personne sur 4, voire sur 3, qui porte encore le masque.
Alors, cher Philippe Randa, je suis...
sous le menton.
Oui, mais bien sûr, je suis pour la liberté individuelle. Pour la liberté individuelle. Si les gens veulent porter le masque, tant mieux pour eux. Et puis en plus, on ne connaît pas leur bulletin de santé intime. Peut-être qu'ils ont une bonne raison au fond d'eux. C'est la liberté individuelle. Mais je le retourne dans l'autre sens aussi. Il fallait aussi la respecter dans l'autre sens.
Certains peuvent avoir effectivement des raisons qui leur sont propres, mais dans ce cas-là, avant cette folie du Covid, que faisaient-ils ? Ils ne sortaient pas avec des masques. Alors pourquoi mettre des masques aujourd'hui ? Parce que surtout à un moment où l'épidémie est en train de, comme avec le beau temps, est en train de se réduire. Mais donc moi, de toute façon, c'est illogique. Maintenant, évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Moi, la liberté individuelle, c'est sacré pour moi. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent même dormir avec. C'est pas un problème. Je peux pas me moquer d'eux. Je vais vous dire, parce que là, je me moque d'eux, mais c'est pas bien. Tout simplement parce que jamais, sauf peut-être en temps de guerre, on a raconté autant de billevesées et de n'importe quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est ce qui est intéressant pendant 2 ans.
Dans l'exercice du livre. Parce que votre livre, finalement, il me rappelle, on a eu Yvan Rioufol qui a fait un livre un peu, qu'il a repris toutes ses chroniques de cet épisode de la Covid. Vous faites aussi ce même exercice. Comme vous le dites, il y a eu des bobards permanents pour un échec cuisant. Et maintenant, on vient nous dire, oubliez ça, mettez ça sous la table. Voilà, vous êtes libre. Mais on ne va pas oublier 2 ans de notre vie qui ont été perdus. Moi, 2 ans de ma vie, je le compte très cher. Je pense que vous aussi.
Ah oui, tout à fait.
Sauf si on était immortel. Sauf si on était
Je pense plus aux très jeunes, qui aux adolescents.
Les 20 ans, les 22 ans, ils ont perdu les plus beaux moments de leur vie. On leur a bousillé ça.
Et en plus, on a traumatisé des populations en disant qu'ils étaient des criminels, c'est-à-dire qu'ils allaient, eux, infecter, tuer grand-père, grand-mère. Vous savez, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Mais vous savez, au tout début, le docteur Plouvier, au tout début du mois de mars, quand ça a vraiment commencé à partir en vrille, le docteur Plouvier m'a expliqué, il m'a dit une chose que j'ai pas cru. Il m'a dit, ils paniquent, ils ont peur. Alors ils font n'importe quoi parce qu'ils ont peur. Là, j'avais pas une grande opinion dans le gouvernement, c'est vrai, mais je me dis la peur, j'y croyais pas spécialement. Voilà. Et je m'aperçois qu'en fait tout s'explique beaucoup plus que par tout ce qu'on racontait, parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'on part vent en poupe contre les mesures du gouvernement, mais il s'est levé aussi des complotistes et des fact-nukers qui ont raconté n'importe quoi et en fait crédibilisé avec leur n'importe quoi ce qu'a fait le gouvernement. Mais
encourager
par le gouvernement, parce que
guignols qui viennent vous expliquer qu'il y a des puces 5G dans le sang, qu'on va vous mettre une puce 5G dans le sang, évidemment, ça discrédite tout le reste.
Ça discrédite, bien sûr. C'est clair. Et ça servait beaucoup plus le gouvernement, les laboratoires pharmaceutiques et autres, toutes ces âneries. Mais pour en revenir, faut bien comprendre une chose, que les gens comprennent une chose, c'est que les gouvernements ont très probablement paniqué, mais une fois que le moment de panique a été passé, il n'est pas interdit de penser que les uns et les autres, que ce soit des scientifiques, que ce soit des politiques, des gouvernements, des hommes d'affaires et tout, se sont dit comment allons-nous tirer profit de toute cette histoire. Les profits ont été multiples. On sait maintenant que les régimes en Asie, les Chinois et autres, ça leur a permis de reprendre en main leur population qui commençait à remuer un peu dans les brancards des dictatures locales. Là, automatiquement, ça les a remis au pas. Et en France, évidemment, tout a changé. Je vous rappelle quand même que la France était paralysée par les grèves suite au projet de réforme des retraites du gouvernement, qu'il y avait eu l'épisode juste avant des Gilets jaunes. Et pendant 2 ans, il n'y a plus eu aucune opposition. Je dirais même, il n'y a plus eu aucune opposition politique, puisque tous les partis, tous les grands leaders politiques ont tous été à l'unisson du gouvernement. Personne n'a pris la parole. On a reproché plus ou moins au gouvernement de ne pas être assez rapide pour faire ci ou pas assez rapide pour faire ça. Mais pas grand-chose, c'est pas le boulot de l'opposition. Puis se sont levés, peut-être sur la fin, effectivement, des candidats, mais qui ne sont pas, enfin des hommes politiques qui ne sont pas les majoritaires en France. Je pense à Florian Philippot ou à Nicolas Dupont-Aignan, qui se sont élevés contre la folie, notamment du tout vaccin et du pass vaccinal, bien évidemment. Mais c'était pas les grands, ils ne faisaient pas partie des grands partis qui pouvaient influer sur la politique. Donc voilà, et tout le monde y a trouvé son intérêt à cette folie, sauf peut-être une seule victime, c'est le peuple qui lui a subi et dont il reste. Bon, il y a eu la privation de liberté, vous avez dit vous-même que ça vous avait bouffé votre vie pendant 2 ans, comme moi, comme des millions d'autres, c'est vrai. Mais vous n'en restez pas traumatisé, vous restez, je pense, comme moi, énervé, irrité par cette situation.
Oui, mais il y aura un devoir de mémoire.
À tous les enfants qui allaient à l'école avec des masques.
Et les pauvres, voilà, oui, et voilà. C'est jeune. Les plus belles années de notre vie, Philippe Randa, vous le savez, c'est nos 18 ans, c'est nos 19 ans, c'est nos 20 ans. Voilà. Ce sont les étés dont on se souvient. Ce sont les étés dont on se souvient encore. Verbatim d'un délire sanitaire, aux éditions du Alpha, le nouveau livre de Philippe Randa avec le docteur Bernard Plouvier. Vous parlez d'incompétence, de panique, de grands mensonges. Alors maintenant, je vais me mettre dans l'autre camp, parce que moi, mon rôle de journaliste, c'est aussi de vous titiller un peu, cher Philippe Randa. On va vous dire, vous vous trompez complètement dans tout ce que vous dites, puisque les Français sont majoritairement pour ces mesures, sont même inquiets de la levée de ces mesures, on le voit dans les enquêtes d'opinion. La preuve, on ne peut pas dire que c'est faux, quand vous baladez dans la rue, il y a encore beaucoup de gens qui mettent le masque, et les gens, quand vous discutez avec eux, je ne vais pas dire majorité, minorité, peu importe, mais il y a beaucoup de gens. Le terme « beaucoup », ça peut signifier 35%, 40% ou 60%. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que le gouvernement a géré formidablement cela.
Alors, mais voilà. Ça ne contredit pas ce que je dis, puisque je l'ai même reconnu tout à l'heure, qu'effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont été terrorisés pendant 2 ans par cette propagande, pourquoi est-ce qu'ils croiraient davantage un Philippe Randa, un Bernard Plouvier, un Yannick Curien, qu'un animateur de télévision ou un professeur ou un médecin qui arrive avec des diplômes à non plus finir et qui continue de vous dire attention, attention, c'est terrible, il faut, voilà. Le citoyen lambda, il ne sait pas. Je ne savais pas plus que lui, d'ailleurs, il y a 2 ans, début de 2020, quand tout ça a démarré. Sauf que, effectivement, je fais partie des gens, et malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, qui cherchent à savoir, à vérifier. Moi, je dis pas je pars pas jamais du principe qu'on me ment, on me dit quelque chose, je vérifie, je fais des constats. Et notre livre avec Bernard Plouvier, c'est 2 ans de constats, où tout ce qui a été fait est absolument hallucinant, n'a servi à rien, sinon à endetter le pays, sinon, effectivement, aux médecins de plateau à accéder à leur quart d'heure de célébrité. Et je crois que ce sont ces gens-là que je déteste, que je méprise encore le plus que les politiciens. Ce sont des médecins, parce que déontologiquement, leur devoir est de soigner les gens. Et ce n'est pas de les terroriser. Et on les a vus se succéder sur les plateaux de télévision en brandissant l'apocalypse. C'était toujours, ça sera toujours pire le lendemain. Surtout que les gens ne se rassurent pas. Surtout que les gens ne se tranquillisent pas. On allait assister à pire demain, toujours pire. Ces médecins ont été sur les plateaux. Tous ceux qui tenaient un discours différent, rappelez-vous, ont été éliminés. Éliminés de tous les plateaux de télévision, et au contraire, ils ont eu même des problèmes avec l'ordre des médecins quand ils voulaient préconiser de soigner les gens à leur manière. C'est-à-dire qu'on a, du jour au lendemain, décidé que des milliers de médecins n'avaient plus le droit d'exercer comme ils l'entendaient leur métier, leur profession, de soigner les gens. On leur a dit non, on ne fait rien, on attend le vaccin, il n'y a pas d'autre solution, vous ne discutez pas. Alors, jusqu'au jour où effectivement le fameux vaccin est arrivé, je pense que tout le monde connaît la suite, des gens sont encore persuadés que le vaccin a sauvé tout le monde. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que le vaccin n'est pas une chose utile pour certaines catégories de personnes, pas du tout. Maintenant, on sait très bien que les vaccins, on n'a pas de, de recul suffisant. Maintenant, on verra l'avenir. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne dis pas que ces vaccins, on va avoir des choses terribles ensuite. Mais en tout cas, on peut faire remarquer qu'on ne sait pas. Et le problème aujourd'hui, c'est que des tas de gens, effectivement, se posent la question et voudraient oublier. Eh bien, je fais, voilà, notre livre, il est là pour en disant attention, ne croyez pas qu'on vous pouvez oublier comme ça, parce que si ça a marché une fois, le fait de remettre les gens en confinement, ça reviendra pour d'autres raisons. Dès qu'il y aura un problème social, il y aura un problème à régler, on dira ah, attention, il y a une nouvelle maladie,
ou une pollution.
On inventera un nom. Une pollution, et hop, on remet les masques. Et le masque, c'est quelque chose de terrible. Les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a plus de contact humain. On ne se rassemble plus. On a peur des gens que l'on côtoie. Donc, on ne peut plus faire des choses ensemble. Il y a des conséquences terribles à l'utilisation du masque. Les masques, avant, c'était réservé dans les hôpitaux pour les gens très malades et pour les médecins, mais c'était pas comme ça dans la société. Tout le monde n'était pas obligé de porter des masques. Moi, je vois des gens que je côtoie maintenant en disant mais vous êtes encore obligé de porter des masques, vous savez. Il me dit oui, c'est pas grave, non, mais ça me pose pas de problème. Voilà, les gens se sont habitués à vivre masqués. Moi, je suis effaré par ces gens qui sont encore... Ils ne sont même pas terrorisés, ils ont pris l'habitude. Et d'ailleurs, en quoi c'est vraiment un problème de mettre des masques, effectivement. Vivons chacun chez soi, n'allons plus dans des rassemblements à l'extérieur. On peut vivre complètement. On peut vivre de Netflix, de télétravail, d'isolement complet.
Ça plaît à certains, libre à eux.
Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aller se rassembler? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de se serrer la main, de s'embrasser, de se faire des accolades? À quoi ça sert de tout ça? Ben ça, c'est ce qu'on appelait juste l'humanité avant. Et là, on est en train, avec ces gens qui jouent ce jeu, on est en train de rentrer dans une autre humanité, mais qui n'est pas une humanité qui m'intéresse beaucoup.
On s'en rend compte
quand on lit. Et qui me fait peur.
Le livre.
Surtout ça permet... que tout est basé sur des mensonges, c'est ça qui est terrible.
Philippe Randa, ce qui est intéressant, c'est que le livre permet d'avoir du recul, sur revenir sur les propos, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait. Quand on prend autant de recul sur ces 2 ans avec la mémoire qui est quand même là, hein, on se dit, on a été ridicule. C'est un peu le message que vous avez envie de partager.
Mais on n'est pas ridicule d'abord parce que on prône la désobéissance civile. Moi, je n'ai jamais fait ça. Il y a un gouvernement, il y a des lois. Je suis pour qu'on respecte les lois, qu'on les change, évidemment, quand elles sont mauvaises, mais qu'on les respecte. Donc, je ne vais pas dire qu'on a été ridicule. Je suis le premier à avoir respecté forcément les lois, à mettre un masque, même si je trouvais que c'était inutile. Mais j'allais pas non seulement avoir des soucis, mais en plus mettre dans l'embarras les commerçants et autres, faire des scandales, ça aurait été grotesque. Mais ce qui est important, plus que de rappeler toute cette succession de choses folles, ce sont les dates. Les dates où, et j'insiste là-dessus, depuis le tout début de cette histoire du Covid, donc le début de l'année 2020, mars 2020, le 15 mars, rappelez-vous, c'est là où le confinement nous est tombé dessus. En fait, les chiffres, on savait que c'est une maladie qui faisait moins de 2% de morts, moins de 2% de cas contaminés. Les gens qui chopaient le Covid, moins de 2% meurent. Et surtout, des personnes extrêmement âgées ou des gens à grosse comorbidité, les obèses et autres. On le savait depuis le début et on a brusquement obligé la population entière à prendre des mesures inutiles au lieu de soigner, parce qu'il fallait protéger et soigner, mais évidemment, ces gens en danger. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité où des parents ont fait prendre un risque à leurs enfants en les vaccinant avec un vaccin sans recul pour se protéger eux. De toute l'histoire de l'humanité, les parents ont toujours voulu que leurs enfants aient une meilleure existence qu'eux, même s'ils avaient une bonne existence, mais ils la voulaient encore meilleure pour leurs enfants. Et surtout, ils ne pouvaient pas admettre qu'ils puissent faire courir des risques à leurs enfants pour se protéger eux-mêmes. Eh bien, si voilà à quoi on est arrivé dans ces 2 ans de folie. Vous savez, ce qui résume bien, c'est le titre d'un livre de Bernard-Henri Lévy au tout début de la pandémie aussi, c'est le virus qui rend fou. Ça a rendu fou les gens qui sont aux manettes du gouvernement, ça a rendu fou des scientifiques, des médecins qui ont préféré leur gloire, leur moment, leur quart d'heure de célébrité qu'ils ont fait durer 2 ans au fait de soigner les gens. Donc déontologiquement, ces gens-là sont les pires, les plus en faute. Et ça rend fou les gens parce que les gens ont peur et la peur rend fou, quoi. C'est tout le monde a peur de moi. Depuis le début, je n'ai effectivement jamais eu peur de la maladie que je tenais pas à choper. Je l'ai eu 2 fois, moi, en plus, ce qui m'a évité d'ailleurs toutes les doses de vaccins dont j'étais entre guillemets menacé. Mais j'ai jamais voulu avoir cette maladie. Mais j'ai eu peur du changement parmi mes contemporains, parmi la population. Alors, heureusement, il y a quand même beaucoup de résistance parce que, effectivement, il y a peut-être beaucoup de gens qui portent encore le masque sans raison et parce qu'ils ont peur. Il y a quand même une grande majorité de nos concitoyens. En tout cas, moi, dans les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, je ne parle pas des gens politisés ou autres qui pourraient, depuis le début, penser aussi que c'était de la folie. Mais dans la vie normale, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui disent oui, non, tout ça, ça commence à bien faire. On s'est un peu moqué de nous.
Merci Philippe Randa. Et puis là, on a vraiment basculé de civilisation au point que Philippe Randa se met à rendre hommage à Bernard-Henri Lévy. Son titre, le virus, c'est fou. Qui l'aurait cru, hein, qui l'aurait cru.
On peut avoir des ennemis politiques ou des adversaires, mais un honnête homme se doit de, lorsque, si quelqu'un vous dit la Terre est ronde, 2 plus 2, ça fait 4, quelle que soit cette personne, on ne peut qu'être d'accord avec lui.
Ah, merci encore Philippe Randa. On vient de parler de votre nouveau livre.
C'est moi, merci d'avoir pu parler de ce livre.
Le livre s'appelle « Verbatim d'un délire sanitaire » de Bernard Plouvier et Philippe Randa, « Covid-19, incompétence, panique et gros mensonges » aux éditions du Alpha. On tape « Verbatim d'un délire sanitaire », on peut vous retrouver via du Alpha ou via francefi.com. On va mettre le lien direct vers votre librairie de vente par correspondance, hein, sur notre site internet. Merci.
C'est très gentil, merci.